Les nuits de France Culture.
De l'extérieur, l'attrait de la techno peut paraître incompréhensible. Comment peut-on danser pendant des heures, voire des nuits et des jours entiers, sur une musique aussi répétitive ? Posé devant une boîte de nuit ou à quelques kilomètres d'une rave, il n'y a en effet qu'un son qui semble se distinguer. Le fameux boom boom, cette basse qui donne le tempo d'une soirée entière, sur laquelle se meut en harmonie une communauté de corps et d'esprit. Pourtant, si l'on se rapproche un tant soit peu des enceintes, si on accepte de franchir le pas et de se laisser glisser entièrement dans cet univers sonore intimidant, parfois étrange, on se rend vite compte qu'il y a énormément de profondeur dans la techno. C'est avant tout une musique extrêmement diverse, avec des inspirations qui viennent aussi bien de la soul et du rhythm and blues que du krautrock allemand des années 60. Il n'y a donc pas que cette basse, ce métronome avec lequel se synchronisent les mouvements et les battements de cœur de la foule. On est également à l'affût du moindre changement, de la moindre ligne mélodique nouvelle qui vient rajouter une page à l'histoire que raconte un morceau. Ce numéro de staccato d'Antoine Speer et Alain Lefkovitch sert justement d'introduction à la riche histoire de la techno, pour immédiatement mettre à mal les stéréotypes et les préjugés que l'on peut avoir vis-à-vis de cette musique si particulière, en compagnie de Daniel Co et Christophe Kim. L'émission revient également, avec David Blow et Morvan Bourri, sur la viabilité commerciale d'un style musical qui, au moment de l'enregistrement de l'émission, avait déjà commencé à envahir les ondes des radios dites plus « mainstream », avant de se tourner dans un dernier temps vers Jean-Philippe Renoux et l'ethnologue Étienne Racine. Une émission réalisée par Monique Veilleté et diffusée pour la première fois le 15 septembre 1998.
Staccato, une émission d'Antoine Speer présentée ce soir par Alain Lefkovitch. La musique techno. Au commencement était le son, mélange paradoxal de pulsations tribales et de technologies futuristes. La techno, musique globale, épidermique et hypnotique, provoque une rupture avec la tradition musicale occidentale. Les rythmes et les fréquences se substituent à l'harmonie et à la mélodie. Les enfants d'Internet et du multimédia se retrouvent dans un univers qui, loin de n'être qu'un mouvement musical, se veut un territoire très vaste où circulent des musiques intelligentes. La techno entend apporter un nouveau sens, de nouvelles formes et un nouveau discours, un laboratoire du monde moderne. Avec nos invités, Christophe Kim, coordinateur du hors-série d'Art Press consacré à l'anatomie des cultures électroniques, et Daniel Co, musicologue et producteur bien connu de France Culture et de France Musique, nous tenterons de faire un état des lieux de cet univers en perpétuel mouvement. Quels sont les enjeux d'un marché qui devrait représenter d'ici l'an 2000 40% des parts ? C'est la question que nous mettrons sur le grill avec David Blow, journaliste et organisateur des soirées Respect au Queen, et Morvan Bourri, responsable marketing du label Mute. Ils passeront le témoin à Jean-Philippe Renoux, rédacteur en chef du magazine Coda, et à Étienne Racine, chercheur en ethnologie à l'école des hautes études en sciences sociales. Quelle est cette culture minimaliste dont se revendiquent les clubbers, les ravers, les créateurs techno et autres travelers ? Est-ce une superculture teintée de New Age, une idée postmoderne du sentiment mystique ou un délire futuro-techno qui pousse le présent à devenir le futur avant l'heure ? Jusqu'à 19h45 et en partenariat avec la revue Art Press, Staccato s'intéresse au mouvement techno, donc avec Nicolas Demorand et Dominique Treilloux. Alors Staccato est branché en réseau ce soir avec vous, Jean-Philippe Renoux. Vous êtes rédacteur du magazine Coda, rédacteur en chef du magazine Coda, un journal qui est spécialisé sur la techno. Et Jean-Philippe Renoux qui restera donc avec nous tout au long de cette émission. Avec également Daniel Co, bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous êtes musicologue et vous êtes également un producteur émérite et connu sur France Culture et France Musique. Et à vos côtés, Christophe Kim. Vous avez coordonné donc ce numéro spécial d'Art Press à la consacré à la techno. Vous faites une anatomie des cultures électroniques. Vous passez au peigne fin donc toutes les réalités que recouvre cette techno. Alors en découvrant ce numéro, moi je me suis demandé finalement pourquoi est-ce qu'un magazine d'art comme Art Press s'intéressait finalement à ce phénomène.
Alors à cette question, pour apporter deux réponses. La première, c'est que Art Press a une politique de hors-série chaque année, essaye de s'ouvrir à des univers qui ne sont pas ceux de l'art contemporain stricto sensu. L'année dernière, c'était la mode, et cette année, c'est la techno. La deuxième réponse qu'on peut faire à cette question, c'est que, de toute évidence, il existe, à travers la musique techno, des pans absolument énormes qui se sont ouverts à de nouvelles façons de faire les choses, à un nouvel usage des technologies, à de nouvelles formes de musique, à de nouvelles formes aussi d'art contemporain. À partir de là, Art Press, je pense, avait peut-être pas le devoir, mais au moins c'était tout à fait légitime qu'Art Press essaye de s'intéresser à cet univers-là.
Dominique Treilloux.
Alors Jean-Philippe Renoux, au cœur de cette révolution techno, il y a bien sûr la musique. Alors une musique d'un genre bien particulier. Et à propos de la musique techno, on parle de mix, on parle de composition. Alors Jean-Philippe Renoux, est-ce que c'est avec ces caractéristiques qu'on distingue deux styles de techno différentes?
Je ne pense pas qu'il y ait seulement deux styles de techno différentes. C'est vrai que le mix, c'est quelque chose d'important. Et à travers le mix, on peut très bien imaginer faire de la composition.
Vous pouvez nous préciser ce que c'est que le mix?
Le mix, c'est tout simplement, on a deux platines. Un disque tourne à droite, l'autre tourne à gauche. On va les superposer l'un sur l'autre, en chanter un pour en amener un autre et créer ainsi une ambiance musicale.
Pour faire une troisième création.
Exactement. Alors, on peut imaginer forcément des mix très rapides avec beaucoup plus que deux platines. Pierre-Henri l'avait expérimenté avec des dizaines de platines quand il faisait de la musique concrète. Peut-être dire qu'il a, lui, inventé le mix sans le savoir. Bon, la différence, c'est que le mixeur, le DJ, est un entertainer. C'est-à-dire qu'il est à l'écoute d'une foule qui va faire bouger dans un club, dans une rave, dans une partie en plein air, peu importe l'endroit. En tout cas, il y a quand même ce rôle d'être à l'écoute d'une foule, peut-être en prendre les pulsations pour répondre soi-même par des pulsations qui sont plus ou moins créées en direct.
Et le compositeur, donc, il a un travail plus solitaire face à son ordinateur?
C'est un petit peu le paradoxe de la techno, c'est-à-dire que c'est une musique très, très, très hédoniste qui s'adresse à une foule qui danse. Et effectivement, l'homme seul devant son ordinateur, contrairement aux groupes de rock qui, eux, avaient besoin, par définition, de se retrouver réunis à 5, 6, peut-être même un peu moins dans une cave, mais au moins à répéter en groupe. Là, il s'agit d'un individu qui va programmer une machine, se servir d'instruments synthétiques et créer cette musique qui est forcément très autonome et très solitaire avant d'être donnée comme ça en pâture à une foule.
Nicolas Demorand.
Et Jean-Philippe Renoux, est-ce que la différence mix-composition suffit à rendre compte de l'extrême diversité des musiques qu'on recoupe sous le terme techno? Peut-être qu'on emploie le terme techno faute de mieux. Je pense à l'ambiance, à la house, à la jungle, au trip-hop, au drum and bass, au hardcore.
On peut rallonger, on peut
rallonger
la
liste à l'infini.
On peut en inventer.
Ont inventé, mais est-ce que cette différence donc, entre deux modes d'approche de la musique électronique suffit à tracer un chemin, disons, dans cette production galopante?
Non, il ne faut pas être aussi manichéen. Il n'y a pas le compositeur d'un côté, le mixeur de l'autre. Il s'avère que d'ailleurs très souvent, un compositeur est DJ et vice-versa. Il y a aussi une certaine intérêt commercial pour qu'un compositeur soit DJ. On évoquait tout à l'heure la solitude de ce créateur en chambre face à son ordinateur. C'est vrai que c'est pas forcément facile de sortir dans ce cas-là de son alcôve pour pouvoir se donner en public. Alors celui qui est DJ, bien sûr, va peut-être en priorité jouer ses propres compositions, montrer son savoir-faire. Après l'avoir mûri tout seul en chambre, comme ça, s'exposer.
Alors, comment on fait la différence alors entre ces différents genres de musique électronique?
Ah, c'est l'éternelle question, mais c'est même plus une question. Je crois que c'est un jeu parce que chaque genre chasse l'autre. Et de toute façon, toutes les tendances qu'on retrouve aujourd'hui dans la musique électronique, appelons-la techno, faute de mieux, comme vous le disiez, en général, trouvent leurs racines dans des genres qui l'ont précédé. C'est-à-dire que sur le plan d'une musique, par exemple, purement électronique, qu'on va appeler le hardcore, ce n'est ni plus ni moins que la réminiscence du hard rock d'antan. La house serait la réminiscence d'une musique soul ou funk. L'ambiance serait la réminiscence des musiques baba cool, un petit peu new age des années 70. Donc, toute musique passée, elles ne sont pas mortes, hein, j'enterre personne, mais trouvent quand même une projection dans les musiques techno. Alors c'est pour ça qu'il faut parler de musique techno au pluriel, parce qu'elles génèrent finalement tout et leur contraire.
Et est-ce que le BPM, le battement par minute, est un critère simple, disons, et pratique pour faire la distinction entre ces différents espaces ou sous-espaces de la techno?
Le BPM, c'est une mesure. C'est rien d'autre que le tempo, pour traduire, littéralement beats per minute. Alors c'est vrai qu'une musique hardcore a tendance à s'élever en BPM, à 140, 160, voire 200 beats par minute. Une musique house plus chaloupée, plus sensuelle, elle tournera autour des 120.
Et le Crispy Bacon de Laurent Garnier qu'on écoute en ce moment?
Allez, approximativement, on va dire 130.
Ok. quelle oreille.
Dominique Trioux.
Jean-Philippe Renoux, qu'est-ce qui fait la nouveauté du BPM?
Et le BPM a toujours existé. À partir du moment où en Afrique, quelqu'un a pris une peau de bête, l'a tendue sur des morceaux de bois et a tapé dessus, il a fait du BPM. Simplement, il ne l'appelait pas comme ça. Nous, aujourd'hui, on l'appelle BPM parce que c'est une unité de mesure et c'est commode pour pouvoir justement mesurer les différents styles de musique. Mais en aucun cas, ça n'oppose ces musiques les unes aux autres. Et le BPM, à partir du moment où je fais ça, c'est un BPM. Je viens de vous en faire un.
Alors Daniel Coe, dans le hors-série d'Art Press dont on a parlé, vous comparez le BPM au cri effarant du saxophone dans le free jazz ou à l'uniformité d'un tableau monochrome. Alors pour le dire un peu pompeusement, est-ce qu'on pourrait dire que le BPM est le principe métaphysique de la technique?
C'est peut-être aller un peu loin. Ce qui est bien certain, c'est que c'est un élément fédérateur. C'est un son énorme, hein, écrit H-E-N-A-U-R-M-E, qui vraiment divise les gens. Les gens qui n'aiment pas la techno, en général, c'est ça qui leur fait peur. Boum, boum, boum. Ils ont vraiment l'impression que c'est quelque chose d'inassimilable. Et en fait, le technoïde, justement, c'est ça qui lui plaît. Je ne vais pas dire qu'il aurait la méchanceté de se complaire dans l'écoute de quelque chose qui révulserait les autres, mais c'est presque une bataille contre soi-même. Quand on écoute les BPM une première fois, on se dit, c'est pas possible, cette musique-là est impossible. Mais c'est un peu comme quand on voit pour la première fois un Mondrian ou un Yves Klein, ou comme on écoute le saxophone d'Albert Ayler ou d'Archie Shepp pour la première fois. On se dit, mais ce n'est plus de la musique, ce n'est plus possible. Et puis on s'aperçoit qu'en fait, c'est un élément très important. C'est presque un peu comme un son stroboscopique. Une fois qu'il est là, il peut arriver tel qu'une répétition absolue. Il y a déjà une sorte de force qui s'installe. Bon. Et puis, il y a un contre-rythme qui peut venir, ou bien alors un vieux disque des années 50, comme disait Jean-Philippe, ça peut être tout peut entrer en quelque sorte. Et puis, il peut disparaître, et puis il peut revenir. Je pense par exemple, dans le hardcore de Manuel Malin, il joue beaucoup avec ça. On a oublié le BPM, on est brusquement plutôt dans une nappe sonore. Il revient, il martèle, il est là. Et je pense que si on n'utilisait pas ces BPM, on risquerait de tomber dans tout un tas d'expériences électroacoustiques qui ont eu lieu, qui sont annulées les unes les autres, où finalement on peut les écouter peut-être dans une émission sur France Musique ou France Culture, mais rarement chez soi, tellement c'est informe, pas intéressant.
Disons, Daniel, je crois que le BPM tout seul n'est rien. C'est une onde porteuse, mais si le BPM ne porte rien, il sera bête. Quasiment bête et méchant même. Mais forcément, dans la mesure où c'est cette unité de mesure, c'est lui qui drive le danseur. C'est lui qui rajoute ses répétitions de motifs rythmiques et qui donne certainement l'aspect hypnotique de la musique. C'est là qu'il devient important. Mais il est le guide. En aucun cas, il est la musique. Il est plutôt l'encadrement de cette musique. Alors, à défaut, on arrive même à un BPM qui puisse scléroser la musique. Parce que maintenant, les compositeurs techno en sont à se dire comment se débarrasser de ce satané kick, de ce satané beat. Et on peut peut-être imaginer faire fi pour aller au-delà maintenant.
Ça sera peut-être là le problème. Parce que ce qui est extraordinaire dans la techno, ce pourquoi on s'y intéresse, c'est que lorsqu'on l'écoute pour la première fois, on se dit c'est typiquement quelque chose à écouter 15 pelés, 3 tondus au fond d'une cave. Vraiment une micro-société, quelque chose d'inassimilable pour tout être bien équilibré. Et puis on s'aperçoit que c'est vrai que c'est une musique aujourd'hui qui est assez populaire, considérablement plus que la musique dite contemporaine, considérablement plus que toutes les expériences électroacoustiques qu'on a pu écouter depuis plusieurs dizaines d'années.
Nicolas Demorand. Oui, alors justement, Daniel Coe, quand on remonte dans le temps et qu'on essaye de voir les prémices ou les sons qui peuvent annoncer ou qui préparent en tout cas ce qu'on appelle la techno aujourd'hui, on rencontre évidemment des gens comme Pierre Henry, comme Schaeffer, comme John Cage, et comme vous le disiez à l'instant, la techno aurait donc évidemment à voir avec la musique minimaliste, et là on écoute tout de suite un extrait de Steve Reich de 1965 qui s'appelle It's Gonna Rain. On revient tout de suite dessus. Daniel Coe, on a le sentiment que, effectivement, comme le disait Jean-Philippe Renoux à l'instant, tout est là, il manque justement que les BPM.
Oui, c'est étonnant, hein, 1965, mais il faut bien s'en rendre compte. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de la voix d'un pasteur noir, hein, et c'est un blague. Bon, il y a un effet de répétition, effet d'hypnotisme, obtenu
même
par un
déphasage.
pardon.
Même sans BPM, on peut avoir.
Ah voilà, voilà. Ils sont presque, hein, on les attend là, ils sont presque là. Non, disons que on se rend bien compte que là, il y a une recherche d'hypnotisme. Hein. Il s'agit, à la manière des arts plastiques, de retenir le temps. C'est ça aussi qui peut réunir le minimalisme né à la fin des années 50, qui s'est développé dans les années 60 et 70, et la techno qui a grosso modo 10 ans d'âge, quoi. C'est que dans les deux cas, il s'agit de retenir le temps. Alors quand on dit c'est trop répétitif, non, pas du tout. Parce que au fur et à mesure qu'une image vient, revient et revient, on en perçoit tous les détails, et s'il y a un petit changement très subtil, on le perçoit immédiatement.
Mais Daniel Coe, est-ce qu'on peut pas dire que la techno, c'est quand même le mariage improbable, comme vous le disiez, du disco, donc d'une musique très commerciale et d'une musique qui, là, pour le coup, n'est absolument pas populaire?
Ah oui, là, vous touchez un point important. Et ça, c'est ça qui est formidable dans la techno, de même que les bandes dessinées, de même que le pop art. Voilà quelque chose qui n'est pas du tout assujetti au culturel, je pensais à Dubuffet, à Suiction de Culture, quoi, quelque chose qui coincerait. Finalement, la techno joue avec tout, avec une grande liberté, et ce dont je me rends compte, c'est que les gens importants de la techno, je ne vais pas dire qu'ils seraient forcément tous capables de faire un blabla, une conférence sur ce qu'est la techno, mais ils ont l'intelligence de l'artiste, quoi. Ils ont l'intelligence d'un Miles Davis, l'intelligence d'un Jackson Pollock ou d'un Mondrian ou de je ne sais qui. C'est-à-dire qu'ils savent vraiment ce qu'ils font, ils le font avec beaucoup de force. Et je crois que c'est pour ça que la techno est importante aujourd'hui.
Alors la deuxième étape qu'on voudrait rencontrer maintenant dans cette rapide histoire de la musique électronique ou des sons qui préparent en tout cas l'arrivée de la techno, c'est faire une place importante évidemment au groupe Kraftwerk, dont on écoute le morceau Boim Boom Chak.
Boim Boom Chak. Boim Ping Boom Chak Ping. Boim Ping Boom Chak Ping. Boim Ping Boom Chak Ping.
Dominique Treilloux.
Daniel Coe, là, on voit aussi que c'est très minimaliste, même si c'est pas sur le papier. On voit apparaître véritablement le concept de techno où la voix s'instrumentalise. Alors, est-ce que c'est à partir de Kraftwerk qu'on peut vraiment dater l'apparition de la techno?
Non, vraiment, non. On peut pas dire ça. Ce qui est certain, c'est qu'à Détroit, par exemple, hein, qu'il s'agisse d'Eric May, qu'il s'agisse de Ruan Atkins, ou qu'il s'agisse le troisième de la Grande Trinité.
Ruan Atkins, Eric May, donc on oublie qui?
Kevin Saunderson. Oui. Alors tous disent que c'est en écoutant Kraftwerk que ce groupe allemand, hein, c'était l'époque des musiques planantes et du rock allemand, dévié du minimalisme, il faut pas l'oublier, c'est parce que Terry Riley avait fait ses concerts d'orgue de musique répétitive, que eux ont amené quelque chose de nouveau. En partant du minimalisme, ils ont apporté une touche particulière, hein, et alors c'est certain que ce groupe-là, en particulier, alors a amené cette notion de mécanisme de façon très volontaire, et ça les a séduits. Mais si on se recule, hein, si on essaie de voir de loin et qu'on essaie de trouver la quintessence, on s'aperçoit que d'un côté, dans la techno, il y a la volonté de la machine clairement impliquée et simultanément l'entrée du corps dans l'électroacoustique. C'est le corps qui danse, qui est là, c'est le corps à travers les sons même. Il y a quelque chose de très étrange entre cette mécanique absolue, cet artifice et le corps. Et puis, de l'autre côté, quand on pense au minimalisme, qu'est-ce qu'il y a de plus minimaliste que la musique de Lamont Young, le créateur de cette musique? Donc, un son, un seul son, mais un son périodique. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce seul son, il y a des rythmes internes. Et il y a ces deux absolus, c'est ça, je dirais. Kraftwerk, d'accord, mais dévié du minimalisme et au départ Lamont Young.
Alors si je pouvais apporter un éclairage, sachant que c'est vrai, Kraftwerk a nourri ses créateurs de Détroit, mais en aucun cas il y avait chez eux une démarche intellectuelle qui consistait à être minimaliste. Aucun d'eux ne connaissait Reich, Lamont Young, Riley et les autres, ni même Philip Glass, qui est maintenant un peu star dans son pays. Simplement, il y avait à Détroit un animateur de radio qui s'appelle Mojo, il existe toujours, et qui animait un show finalement totalement iconoclaste pour l'époque, mais qui parlait tout à fait aux gens de Détroit, à savoir qu'il y jouait des musiques très funky, Parliament, funkadelic, natif de Détroit, Prince, de l'État.
Il faut peut-être préciser que Détroit est le berceau de la musique techno.
Oui, on l'avait fait, c'est vrai, mais on peut le rappeler. Ce n'est pas le seul d'ailleurs, du reste. Ces jeunes créateurs donc se sont retrouvés avec un groupe comme Kraftwerk qui pour eux était le premier à humaniser la machine. Il s'agissait pas pour eux d'écouter une musique qui qualifiait a priori de minimale ou purement électronique, même si elle l'était. Il s'agissait de chansons pop, un petit peu funky, mais de chansons qui finalement, si on prend un Kraftwerk aujourd'hui et qu'on en enlève les harmonies électroniques pour en mettre des violons, on pourrait très bien avoir quelque chose qui passerait au prochain Eurovision.
Alors, en même temps que vous parliez d'humaniser la machine, en même temps, ça s'accompagne pas d'une déshumanisation, mais en tout cas, on désacralise l'image du musicien, qui est un peu plus en retrait, disons, le musicien n'est pas la star dans le spectacle.
Contrairement au guitariste de Guns N' Roses, qui aura tous ses lasers, si vous voulez, braqués sur lui au moment où il secoue sa guitare avec énervement, on verra, je pense pas, un musicien techno secouer son ordinateur très très fort. Encore que ça pourrait être un certain concept, mais plutôt au second degré. Mais le musicien intervient autant, forcément. Il y a ce lieu commun qui consiste à dire c'est une musique électronique faite par des ordinateurs. Mais si personne programme l'ordinateur, il sera bête et con. Il va pas vous programmer de la musique rien que parce que vous le regardez.
Christophe Kim.
Je voulais revenir un petit peu sur cette histoire de Kraftwerk et de Détroit. En fait, ce qui est intéressant aussi de noter à travers cet héritage qui s'est fait par l'intermédiaire de ce DJ de radio, au fond, c'est que l'histoire là qu'on essaye de déterminer depuis une vingtaine de minutes, elle fait des plis en fait par moment. Elle n'est pas linéaire. Et à Détroit, il y a eu un pli de l'histoire. Il y a eu un pli de l'histoire qui s'est fait par cette diffusion de musique d'un DJ tout à fait iconoclaste, en effet, à Détroit, qui a permis cette espèce de jonction qui, en effet, peut paraître tout à fait improbable si on l'analyse sur un plan strictement linéaire, sachant qu'en effet, Détroit a aussi été marqué par la Tamla Motown, qui était quand même le label soul des États-Unis et qui a quitté Détroit en 72 pour aller s'installer à Los Angeles.
Et qui là s'est cassé la figure d'ailleurs.
Oui.
Nicolas Demorand.
Pour avoir une image et une idée un petit peu plus précise de ce que sont ces sons de Détroit, on écoute tout de suite Codebreaker du label Underground Resistance. Jean-Philippe Renoux, on est étonné par l'atmosphère quand même funky de ce morceau. Ça rappelle quand même une évidence qu'on oublie un tout petit peu, c'est que la techno est peut-être le dernier chapitre d'une great black music.
Exactement, tout ça s'enchaîne, et encore, c'est sûrement pas le dernier chapitre, il y en aura un autre.
Celui qui est en cours, en tout cas.
Exactement, c'est la musique du présent. Je suis pas tout à fait d'accord avec ce lieu commun qui tendrait à faire croire que la techno, c'est le futur. Non, le futur, il sera ce qu'en feront les musiciens d'aujourd'hui et d'autres qui arriveront après. Par contre, c'est clair qu'elle est certainement la musique la plus présente et celle qui explique le plus le présent. En l'occurrence, Détroit, sociologiquement parlant, on est dans un univers très industriel, mais très meurtri par la crise, par du chômage, par General Motors qui a déserté finalement le pays pour laisser des machines en friche. Two Kids, qui a grandi à Détroit, se retrouve avec une éducation instinctive de la machine. Et forcément, il a grandi avec Diana Ross, il a grandi avec James Brown, il a grandi avec Parliament. Il a mis tout ça dans le même panier, il a secoué, et voilà, ça donne quelque chose de très vivant aujourd'hui, qui correspond à une réalité historique, culturelle.
Oui. En Daniel Co, moi j'aurais voulu savoir si finalement le morceau de techno qu'on est en train d'écouter n'est pas issu d'une nouvelle technologie, mais d'une technologie déjà ancienne que l'individu aurait enfin digérée.
Oui, moi ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que tout de même la techno est apparue aujourd'hui, est apparue au cours des années 80, et c'est vrai qu'elle n'est pas apparue à n'importe quelle époque. Hein. C'est-à-dire que tous les kids aujourd'hui, effectivement, sont avec un ordinateur. C'est rentré. Moi, je sais pas, je suis d'une génération où j'ai vu la naissance de l'ordinateur avec le Moog Synthesizer. Et puis, petit à petit, après le numérique, est-ce que l'on veut. Mais moi, je vois mon petit neveu qui a 19 ans. Il est au milieu de ça, comme si ça allait de soi. Quoi. Et je me demande si la techno, en fait, n'est pas un exorcisme, en quelque sorte. Un exorcisme de la société qui nous entoure. Et alors qu'on dit, oh les jeunes, on dit il y a longtemps ça, hein, oh, les jeunes sont fatigués, les jeunes ne s'engagent pas, les jeunes sont ceci, les jeunes sont cela. J'ai l'impression que là ils emmerdent un peu tout le monde et puis qu'ils ont envie de faire ce qu'ils veulent. C'est ça que je sens moi dans la techno, c'est vraiment, il y a une authenticité là, il y a quelque chose qui se passe où c'est pas parce qu'on conseille de faire ci ou de faire ça. Ils font pas ça pour faire plaisir à un organisme quelconque, ils le font parce que ça leur parle et ils ont besoin de le faire.
Alors vous avez participé également à ce numéro Artprest spécial techno. Christophe Kim, c'est bien ce qu'on ressent quand on lit ce numéro spécial. Finalement, Daniel Coe parle d'une espèce d'exorcisme. Est-ce qu'on peut le rejoindre là-dessus ?
Oui, enfin, en reprenant peut-être ce qu'on disait auparavant d'ailleurs, c'est-à-dire que on pourrait émettre l'hypothèse selon laquelle, en effet, la techno s'est bâtie un petit peu sur les ruines de la société industrielle. En tout cas, l'exemple de Détroit tendrait à le montrer.
De Manchester, il n'est de pas, Sheffield également. Voilà,
bien sûr, en Angleterre aussi, la Seed House s'est tout d'abord développée dans le nord et dans des terres où finalement le chômage était particulièrement important puisque l'industrie était récalcitrante. Et d'autre part, pour reprendre ce que vient de dire Daniel Coe, en effet, il y a peut-être un aspect qui est important aussi à mentionner, c'est cette dimension du jeu, en fait, dans la techno, de l'utilisation de technologies qui ne sont pas forcément les technologies les plus pointues, puisqu'on, en fait, la house music, elle est née de l'échec commercial de la TB-303 de Roland, qui se rachetait au marché.
Machine mythique.
Machine qui est devenue mythique par la suite, parce que son échec commercial avait été retentissant et
son usage avait été détourné, en fait. C'est
tout
ça qui est intéressant.
C'est-à-dire que Roland. C'était prévu pour des musiciens qui étaient censés s'accompagner de lignes de basse dans des bars plutôt, qui jouaient la guitare.
Et ça faisait des lignes de basse minables.
Et ça faisait des lignes de basse minables, et du coup, en saturant tous les niveaux de cette machine, eh ben on a donné naissance à la house en 86 à Chicago.
Alors on ne saurait parler techno sans noter que chaque pays possède sa propre scène, sa touche personnelle. Alors maintenant je vous propose de partir quelques instants au pays du soleil levant sur l'île d'Honshu où les raves sont légion. Alors considéré par les jeunes tokyoïdes comme un des remparts contre la déshumanisation de la société japonaise, la techno y bat son plein comme nous l'explique et comme l'expliquait Dominique Treillou, notre correspondante sur place, Françoise Bresse, qui a rencontré pour Staccato une jeunesse disciple de Gaïa et héritière du célèbre Ikutara Kakehashi, l'inventeur des célébrissimes boîtes à rythme.
Je suis sortie donc tous les soirs depuis que je suis arrivée. Et par exemple, les jeunes tokyoïdes aiment avant de sortir se métamorphoser carrément comme dans leurs dessins animés. C'est très amusant par exemple quand on les voit à Roppongi, qui est l'un des quartiers les plus cosmopolites de Tokyo. Là, j'avais rendez-vous avec Makoto Sato, que je connais du centre Giga, qui est une radio, il faut que je vous dise deux mots pour cette radio, parce que c'est aussi dans l'ambiance de ce type de musique-là, quoi. C'est une radio expérimentale qui s'appelle le centre Giga, qui a été créée à l'origine sur le cycle de la Lune et des marées, et la programmation se faisait en direct, en alternance, avec des moments très intenses et très calmes, en fonction des marées, et il y avait beaucoup d'enregistrements de la nature, des ambiances, quoi, et de temps en temps, des voix qui disaient des poèmes en japonais. Et donc ce copain-là, Makoto Sato, est aussi DJ. Et donc je l'ai retrouvé, il avait un look excellentissime, et puis il s'appelle J. Pepper quand il est DJ. Japanese Pepper. Il m'a dit, on est petit japonais, mais très piquant, il m'a dit en rigolant. Et puis après, j'avais quand même envie de vous parler un petit peu de cette soirée, parce que c'était un peu assez différent, quoi. Je me suis retrouvée au milieu d'un des 26 clubs de Tokyo, qu'ils appellent le Plastic Club, donc à Roppongi, et qui organise comme chaque club des soirées thématiques avec des DJ différents à chaque fois pour varier les plaisirs. Et en fait, ils passent de style à d'autres. Ils sont pas fermés toujours dans le même style. Et donc, il y avait dans ce club, debout au milieu, à une table, un homme avec une casquette qui était complètement absorbé par son portable dernier cri, là, ceux qui sont extra plats. Et juste à côté, il y avait deux jeunes filles qui sirotaient en attendant tranquillement que viennent très timidement les aborder deux garçons. Et Et puis juste derrière elle, il y avait sur le mur un écran qui diffusait un film américain avec des scènes plus que légères. Et puis tout ça, c'était des univers qui se coexistaient sans aucun problème.
Alors Christophe Kim, là on est en train d'entendre un morceau de ce qu'on appelle la French Touch. Alors est-ce que la France aussi pourrait pousser un cocorico puisqu'elle possède également sa scène musicale? Là on est en train d'entendre un morceau du groupe R.
La Femme d'Argent.
Bah tout à fait, enfin pourrait pousser un cocorico, d'ailleurs elle l'a déjà poussé d'une certaine manière.
Ce qui est tout bête, c'est qu'à partir du moment où on chante en français, à part avoir quelques éléments typiquement français à la Maurice Chevalier ou à l'Edith Piaf, on n'avait pas grand-chose à exporter. On préférait finalement vendre du Ricard et du parfum Chanel que vendre de la musique, parce qu'on était vraiment à la traîne à ce niveau-là. La techno, par définition, elle est sans parole, elle s'universalise donc, et on a trouvé, c'est vrai, un savoir-faire français illustré dans des choses très pop comme R, parce qu'on est plus proche de la chanson que du rythme primal, et des choses plus dures comme Daft
Punk. Et on dit d'ailleurs que cette musique s'exporte bien justement parce qu'il n'y a pas de parole en français dessus.
Bien sûr.
D'un mot, Daniel Coe.
Oui, pour dire qu'en fait, si on regarde bien cette French Touch, cet aspect de la techno français, cet aspect français, eh bien en fait, c'est le seul courant musical vraiment important de fond qui soit apparu depuis mai 68.
Messieurs, merci, nous allons nous quitter, nous serons de retour à 18h45, nos témoins seront Jean-Philippe Renoux, qu'on a déjà eu en première partie, il est rédacteur en chef du magazine Coda, il sera en compagnie d'Étienne Racine, qui est chercheur en ethnologie à l'école des études en sciences sociales. Quels sont les enjeux d'un marché de la techno en pleine expansion? C'est la question que nous mettrons sur le grill avec David Blau, journaliste et organisateur des soirées Respect au Queen, et Morvan de Bourri, responsable marketing du label Mute. Il est un peu moins de 18h30 sur France Culture, l'heure de retrouver le journal. Staccato, France Culture, deuxième partie. Bonsoir à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Bonsoir aux autres. Ce soir, Staccato s'intéresse à la techno et à son phénomène. Nous passerons le témoin à Jean-Philippe Renoux, rédacteur en chef du magazine Coda, et à Étienne Racine, chercheur en ethnologie à l'école des hautes études en sciences sociales. Quels sont les enjeux d'un marché de la techno en pleine expansion? C'est la question que vous mettez sur le grill avec vos deux invités. Nicolas Demorand, c'est à vous.
Oui Alain, vous rappeliez au début de l'émission que certaines estimations du MIDEM laissaient penser que la musique électronique pourrait à terme absorber 40% des ventes de disques. Et récemment, le succès de groupes comme R, Daft Punk ou de personnalités comme Étienne de Crécy et Laurent Garnier qui va faire son premier Olympia jeudi 17 en fin de semaine, laisse penser qu'il existe donc une forte demande pour ce genre de musique. Et aujourd'hui, les grandes maisons de disques, les majors, se concentrent sur ce marché en s'adjoignant le plus souvent les services ou l'esprit de petits labels techno dont l'indépendance et la mobilité ont été essentiel à l'essor de cette musique. Un des enjeux de notre débat sera donc de voir l'ampleur commerciale du phénomène, mais surtout d'analyser les conséquences de l'entrée de la techno dans l'univers capitalistique donc de ces majors. Que reste-t-il en effet de l'esprit frondeur des petits labels dans la lutte que vont se mener, et se mènent déjà d'ailleurs autour de cette musique, les grandes entreprises? Alors nos deux invités sont chacun à un bout du circuit de production et de consommation de la musique, puisque Morvan Bourri, bonsoir. Vous êtes responsable du marketing du label Mute, un label techno qui fait partie du groupe Virgin.
Non, c'est un label indépendant qui est distribué par Virgin. Ouais,
distribué par Virgin. Et David Blau, vous êtes, vous, organisateur des fameuses soirées Respect qui se déroulent au Queen, club parisien. Bonsoir, très connu. Morvan Bourri, j'aimerais qu'on fasse un rapide état des lieux du marché de la techno, notamment du point de vue des ventes. Quel est le volume de ces ventes?
Ça se chiffre en plusieurs dizaines de millions de francs. C'est difficile de faire la part des choses entre ce qui relève de la techno, du rock, de la variété, puisque la techno, plus généralement, les musiques électroniques maintenant recouvrent des genres qui existaient déjà auparavant, mais qui s'affirmaient pas comme des genres électroniques, qui vont de la dance jusqu'à la techno la plus underground. Donc on ne peut pas donner d'estimation de part de marché, entre guillemets, pour la techno et les musiques électroniques. Ce qu'on sait, c'est que cette part est croissante, mais on ne peut pas la chiffrer, c'est pas possible.
Et est-ce que le marché de ces musiques-là est à deux vitesses, c'est-à-dire d'un côté des stars, comme celles que je citais tout à l'heure, ou des groupes très importants par le volume de leurs ventes, et de l'autre côté une production multiple qui foisonne, mais qui plafonne aussi à un certain niveau, assez peu connu, enfin qui ne parviennent pas à sortir de cette orbite des connaisseurs.
Il y a plusieurs niveaux qui se relèvent pas vraiment d'une dichotomie underground et sphère commerciale, mais c'est quand même une économie vraiment qui est basée sur la circulation. Donc on constate énormément de mouvements entre des gens qui viennent de l'underground ou qui y ont été et qui subitement ou progressivement atteignent la sphère commerciale grand public. Donc il y a énormément de circulation, mais qui fonctionne également dans les deux sens, c'est-à-dire que des gens qui sont considérés comme des premières stars de la techno continuent à avoir énormément d'activités pour un cercle plus restreint, souvent c'est une des raisons pour lesquelles certains DJ ou certains artistes techno évoluent sous plusieurs noms.
Et à partir de quel moment est-ce qu'on peut parler de succès pour un disque ? C'est quoi ? C'est un succès d'estime dans les clubs ? Quand ça gagne le grand public ? C'est quoi un succès pour un disque de techno ?
Un succès, c'est
la reprise par d'autres DJ, des remixes.
Ça dépend. Enfin, c'est assez compliqué. Enfin, le succès commercial, vous voulez dire ?
Ou le succès d'estime.
C'est deux choses qui sont complètement différentes. Je peux vous répondre au niveau d'un succès commercial, un succès d'estime. On connaît dans le monde de la techno beaucoup de disques qui ont beaucoup d'articles ou d'artistes qui ont beaucoup d'articles écrits sur eux, mais qui n'ont pas vendu beaucoup de disques. C'est un succès d'estime et qui se mesure difficilement. Un succès commercial, il y a en gros, on pourrait situer deux ou trois niveaux de succès, c'est-à-dire un premier palier de succès qui est un palier à 20, 30, 40 000 exemplaires vendus d'un disque, d'un single ou d'un album.
C'est fréquent ?
Ça arrive très régulièrement, oui. Qui est en fait une phase de ce qu'on appelle où l'artiste est encore en développement, c'est-à-dire une phase où l'artiste a touché un premier cercle de public qui n'est pas vraiment le grand public. La musique ne passe pas forcément sur le réseau FM, mais l'artiste ont commencé à s'installer. Le deuxième palier, c'est le palier de ce qu'on appelle le disque d'or dans l'industrie du disque, c'est-à-dire les 100 000 exemplaires pour un album.
Et là, je vous pose la même question, c'est fréquent aussi en techno ?
C'est moins fréquent, mais ça arrive de plus en plus souvent. Et c'est un palier où là, en général, un ou plusieurs titres de l'album est passé sur des réseaux FM et a été éventuellement promu par une campagne à la télévision. Et enfin, le troisième palier, c'est le palier des 300, 400 000 albums et au-delà, qui est là le palier des quelques superstars ou des gros succès de la techno, comme Daft Punk par exemple en France.
Et une dernière question sur ce sujet, par rapport à des ventes comme celle d'un groupe de rap comme NTM ou ce genre de groupe, est-ce que on est sur des succès comparables ou qui laissent penser qu'on le sera à un moment ou à un autre ?
C'est comparable. Il manque encore un artiste ou un disque français qui soit le disque unanime de l'explosion grand public. Ce qui s'est passé dans le rap avec des groupes comme IAM ou NTM a pas été complètement avéré dans la techno, mais je pense que c'est une question de moi. Ou...
David Blow, je disais en commençant ce grill que vous étiez à l'autre bout de la chaîne, c'est-à-dire dans les clubs, un endroit de diffusion, mais historiquement les clubs aussi, comme les labels, ont été des lieux de création et d'accompagnement de la musique techno.
Oui, disons que toute l'origine de la house ou de la techno passe avant tout par des clubs, surtout la house qui est vraiment la descendante du disco. Si on doit remonter historiquement, on remonte en fait à des clubs comme Studio 54 ou le Paradise Garage à New York, le Palace en France avant que ça soit ce que ça a été dans les années 80, ça a eu comme une période d'or. Et c'est même avant les origines de la house, c'est peut-être là où c'est né, puisque c'est avant tout effectivement une musique de club. Les rêves, c'est né 10 ans plus tard. Mais pareil à Chicago, c'est né aussi dans un club et tous les clubs, c'est une plaque tournante indispensable. Un disque avant de vendre ne serait-ce que 2 unités va peut-être...
Une unité,
c'est une copie, quoi.
Ah, d'accord.
Avant d'en vendre,
je pensais que c'était 100 000 exemplaires.
Non, c'est un seul disque. Avant même qu'il en vende un seul, le disque peut pendant 6 mois tourner uniquement dans les réseaux des clubs et des rêves. Le cas d'un disque de label qui est d'une formation de solo de Daft Punk qui s'appelle Stardust. Pendant trois mois, il y avait qu'une vingtaine de personnes qui avaient ce disque dans le monde, une vingtaine de DJ. Mais ces 20 DJ ont pu le jouer au total peut-être à 1 million, 2 millions, 3 millions de personnes à travers le monde parce qu'ils jouent partout, ils font des shows radio et des choses comme ça. Donc, effectivement, il y a énormément de paliers de diffusion avant même que le succès passera pas forcément par les ventes. Le disque peut être connu dans le monde entier sans même qu'il soit sorti.
Donc aujourd'hui encore, les clubs ont ce rôle d'accompagnement et travaillent peut-être pas main dans la main avec les labels, mais en tout cas créent des effets de rareté qui plus tard vont susciter une forte demande sur le marché.
tout nouveau disque fait par un producteur techno house qui se danse, parce qu'effectivement il y a des sous-genres qui se dansent de moins en moins, est testé dans les clubs. C'est la priorité. Donc parfois même il sort du studio avec sa cassette et il arrive directement dans le club pour le jouer fort.
Alors on parle
mythiquement, c'est ça.
On parle de musique ou de marketing là?
On parle de musique, bien sûr. On parle de l'excitation d'avoir fait quelque chose, de le montrer aux gens, de voir si ça plaît, à la limite de le retravailler chez lui. Après, on peut s'en servir aussi comme un réseau marketing. C'est indispensable de passer par les clubs ou passer par les rêves pour arriver à toucher le grand public à la fin de la boucle.
Bon, mais ce n'est pas soit l'un, soit l'autre. C'est vraiment, enfin, ce n'est pas soit est-ce de la musique ou est-ce du marketing. C'est propre à la techno. C'est comme ça que ça fonctionne. Après que c'était un mode opératoire qui ait facilité son développement ou son explosion dans les années récentes, peut-être, mais c'est une propriété de cette musique. Là.
Mais en quoi? C'est-à-dire, c'est une musique qui
c'est une musique qui est capable.
Clandestine d'abord.
Non, c'est une musique. Ce que je veux dire, c'est que c'est une musique qui a pas de frontières. C'est-à-dire, c'est une musique. Si un DJ va dans un club, teste son morceau ne fait pas réagir les gens ne dansent pas. Ou si au bout de quelques semaines, effectivement, le morceau n'arrive pas à fonctionner, le DJ il revoit sa copie et considère. Il aura tendance à considérer qu'effectivement le morceau il doit fonctionner.
Et alors donc le critère absolu, c'est, j'allais dire, la dansabilité du morceau.
Pas le critère absolu, c'est le critère initial. C'est-à-dire c'était au début, enfin, dans l'époque mythique dont parlait David tout à l'heure de la techno. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'un morceau techno, c'est fait pour faire danser des gens. Et dans le cas d'un live mix, par exemple, quand un DJ mix en direct, quand il lève la tête et quand il voit que sur le dance floor se vide, il aura tendance à changer de morceau, moduler le rythme, amener une évolution. L'intérêt de cette musique-là, son but, c'est aussi une musique qui est un moyen. C'est un moyen de faire danser des gens.
Et Jean-Philippe Renoux disait dans la première partie de l'émission que certains DJ essayaient maintenant de s'affranchir justement de cette dimension-là.
Moi, je pense que oui, c'est une espèce de réaction qui est normale et qui est extrêmement saine, mais qui là aussi débouche sur des choses tout à fait intéressantes, notamment dans l'ambiance, qui peuvent aussi avoir un potentiel commercial, mais par des voies détournées.
Alors l'ambiance, est-ce que vous pouvez préciser ce que c'est, puisque Jean-Philippe Renoux n'a pas voulu le faire tout à l'heure.
Il est beaucoup mieux placé que moi pour donner une définition, donc s'il n'a pas pu le faire, j'ai encore moins passé.
Non, mais il n'a pas voulu.
Non, c'est une musique qui, en général, s'affranchit du rythme, qui est essentiellement basée sur la construction d'atmosphère. C'est une musique qui est...
Qui est en réaction au rythme aussi.
En réaction au rythme.
À la base, c'était dans les rêves, les endroits chill-out, qu'on appelle, c'est des endroits de relaxation et de repos, donc effectivement, il n'était pas question d'avoir des BPM dans ces endroits-là, donc en fait, c'était en réaction aussi.
Oui.
Mais on calcule à zéro BPM, c'est ça qui est assez drôle.
C'est une musique de la continuité du repos.
D'accord, donc on revient à notre point métaphysique de la première partie de l'émission. David Blow, est-ce que c'est toujours en club que les réputations se construisent, les réputations de DJ, quand on pense au parcours de quelqu'un comme Laurent Garnier? C'est quelqu'un qui, pendant très longtemps, a travaillé en club, a construit là une sorte de parcours.
Le DJ, oui, ça c'est évident, ça passera par les clubs ou les rêves, et Garnier a fait les deux en l'occurrence. Mais ce qui rend le personnage mythique, après, une fête peut être mythique, une rêve peut être mythique, mais un DJ sera mythique, à mon avis, avant tout par une résidence dans des clubs. C'est-à-dire qu'il prend un lieu, on appelle vraiment le mot résidence, et ça revient souvent, le DJ est résident, il prend un lieu, il l'investit. Laurent Garnier, c'était les jeudis du Rex Club pendant 4 ou 5 ans. Et puis quand on parle de Larry Levan au Paradise Garage, il a dû rester 4-5 ans aussi, si ce n'est plus. Actuellement, même des DJ qu'on aime plus ou moins, mais des gens comme Junior Vasquez ou Danny Tenaglia à New York construisent tout leur personnage en étant résident d'un lieu, un seul lieu, un soir par semaine, généralement de minuit à 4 heures de l'après-midi, ils mixent pendant 12 ou 16 heures non-stop. Ouais. Mais c'est là où la réputation se créera, c'est clair.
Et est-ce que, au Queen, dans le cadre de ces soirées Respect, vous essayez de mettre le pied à l'étrier à des jeunes DJ? Est-ce que ça a aussi, le club a ce rôle-là de faire connaître des gens, de faire connaître de nouvelles pratiques, de nouveaux mix, de nouvelles attitudes? Ou est-ce que la résidence...
Non, nous, on n'est pas résident, nous. Hein. Ouais. Nous, on a fait jouer plus de 100 DJ maintenant en 200 soirées, donc ça fait que ça tourne quand même assez vite. Il y a une vingtaine de Parisiens qu'on va dire qui sont un peu résidents chez nous, mais qui viennent de temps à autre au bonheur des programmations. Et découvrir des gens nouveaux, bah ça c'est comme à la radio, on teste des nouveaux animateurs ou partout. Hein, évidemment, il faut faire tourner. Donc forcément, on prend des gens nouveaux pour qu'ils puissent mixer et puis qu'ils aient un peu de succès plus tard.
Morvan Bourri, est-ce que en tant que responsable du marketing, membre d'un label, est-ce que vous vous déplacez souvent en club pour écouter des choses ou pour chercher de nouveaux sons ou pour voir de nouvelles personnalités?
Oui, mais je m'y déplaçais bien avant d'avoir
bien sûr, mais responsabilité. responsabilité professionnelle oblige.
Pas vraiment, non. Enfin, c'est pas une démarche. On fait pas, on n'envoie pas des gens faire des sondages dans des clubs pour savoir ce que ça.
Non, mais vous-même personnellement?
Oui, bien sûr. Ouais. mais enfin régulièrement, mais dissocier le personnel du professionnel est difficile dans ce cas-là.
Et est-ce que les succès des clubs deviennent nécessairement des succès publics ? On abordait le problème un petit peu différemment tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une sorte de logique
Non, pas forcément, mais sont en général des bons indicateurs. C'est-à-dire, c'est vrai que le club, même encore, même à l'heure actuelle, et même pour des morceaux qui sont limite, enfin entre la dance et la techno, sont vraiment des révélateurs intéressants. C'est-à-dire que il y a des régions aussi qui sont beaucoup plus réactives que d'autres. Le nord de la France, par exemple, est très réactif.
Et ça doit s'expliquer, non ?
C'est culturel. Je pense que la proximité de la Belgique fait qu'il y a une culture des musiques électroniques qui est plus ancienne, plus établie, et beaucoup plus de clubs qui ont pris le parti.
De plus de friches industrielles, peut-être aussi.
Aussi, oui. Mais c'est vrai que le club reste encore un indice très intéressant, à savoir si un morceau est, à ce moment-là, une validité commerciale.
David Blow, vous parliez tout à l'heure de la différence entre les raves et le club. Est-ce qu'il y a une coupure profonde entre ces deux espaces de la fête techno ?
Ouais, moi j'irais plus loin. Personnellement, je trouve qu'il y a une rupture profonde avec même ce qu'on appelle la culture techno, quoi. C'est-à-dire que je me sens pas du tout culture techno ou quoi que ce soit, pas pour faire l'original, mais tout simplement parce que c'est faire une nouvelle ségrégation plus. Puis il faut faire gaffe. Tout à l'heure, il y a un seul truc, je trouve, qui a été dit tout à l'heure, dire que la French Touch est quelque chose depuis mai 68 le plus révolutionnaire. Enfin, c'est oublier le rap français, par exemple. Faut pas exagérer. Il y a eu, le hip-hop n'a rien à voir avec la techno et c'est quand même quelque chose qui est très vivant, très important et socialement, à mon avis, peut-être encore plus d'impact que peut l'avoir la techno. Donc se révéler, se revendiquer d'une culture techno, je sais pas. Donc par rapport à club et rêve, les rêves c'est très techno, effectivement. On dit à de pratiques. Le rêve c'est quoi ? C'est une fête. On pourrait faire des fêtes avec n'importe quel style musical, mais oui. En fin de compte, les rêves c'est devenu très techno, c'est-à-dire sans voix, sans soul, c'est-à-dire des boîtes à rythme qui, pas bon, je le vois de manière un peu caricaturale à ma manière, mais de manière, c'est une musique très blanche, très froide généralement. En club, effectivement, on fait vivre, et surtout depuis 2-3 ans en France, mais internationalement, puisque ça remonte au disco, on fait vivre avant tout. On peut jouer sur des sonorités nettement plus soul, nettement plus funk, nettement plus donc la techno. Là-dedans ne voudra plus dire grand-chose.
Morvan Bourri, David Blow, soulignait un point important tout à l'heure qui est l'oubli effectivement du rap depuis 1968 dans le décompte de nos gloires musicales. Est-ce qu'on peut dire, à votre avis, que la techno est une musique de classe ? C'est-à-dire une musique non sociale, qui en tout cas qui n'est pas écoutée, qui ne serait pas une musique populaire à ce titre ?
C'est une musique qui peut être populaire, mais je pense que c'est une musique qui est transversale et qui est aussi segmentée. Je pense que certaines classes sociales se recoupent par rapport à certains comportements. Par exemple, on parlait l'opposition entre clubber, rêveur est souvent évoquée. J'ai le sentiment personnellement que le clubber, c'est quelqu'un qui est naturellement qui est plus urbain souvent et qui a une démarche peut-être qui est une catégorie sociale, socio-professionnelle peut-être moins populaire que les gens qui vont au rêve. Enfin, moi, c'est un sentiment que j'ai personnel qui demande à être vérifié. Mais à mon avis, c'est une musique qui est transversale, c'est-à-dire qui est populaire en général, mais qui aussi peut être segmentée par rapport, par exemple, à l'endroit où elle s'exprime ou peut-être certains genres aussi sont appréciés plus ou moins différemment en fonction de classe sociale ou quoi que ce soit.
Vous repérez ces différences sociologiques le mercredi soir au Queen ?
Bah, nous, l'idée était quand même de les brasser. Hein. Donc, on est pareil, là aussi, on est pensé
comment
pas pris. Bah, en évitant les clichés, c'est-à-dire que si on organisait des rêves, on éviterait de faire en sorte que ça soit dans une usine et que tout le monde soit défoncé et que tout le monde écoute la même musique toute la nuit. Et quand on est dans un club, on évite de faire en sorte que ça soit les mêmes physios à la porte qui refusent l'entrée toujours aux mêmes personnes, etc., etc. Donc, faut jouer des codes, faut décoder, on va dire, l'endroit. Et nous, il y a pas de critères. C'est une soirée gratuite, ce qui est déjà rare. C'est une soirée qui se veut effectivement populaire. Et il y a plusieurs couches sociales, plusieurs personnes. Enfin, vraiment plein de milieux différents qui peuvent se retrouver au sein du même endroit. Ceci dit, c'est vrai, le clubber peut-être serait d'un milieu social un peu plus aisé a priori que le rêveur. Mais pas le mercredi à mon avis, si on fait un sondage le mercredi. Au contraire, c'est gratuit. Hein. Une rêve, c'est au moins 150 ou 200 francs. Nous, c'est 0 francs. Donc il y a aussi, on peut voir ça comme ça. Ou alors les gens qui ont moins de moyens et bien aussi se faire avoir à l'entrée des rêves, c'est leur problème, je sais pas.
Morvan Bourri, je rappelais tout à l'heure que dans l'histoire de la techno, il y a cette importance du label, des petits labels, que ça a été vraiment la structure qui a à la fois produit et accompagné l'essor de cette musique. À partir du moment où on rentre dans une logique qui est maintenant commerciale, où de plus en plus de grosses compagnies disques s'intéressent à cette musique-là, est-ce que ça menace, d'après vous, l'esprit d'indépendance de ces petits labels, l'esprit frondeur, comme je le disais tout à l'heure ?
Frondeur, je crois qu'au contraire, les labels techno qui réussissent sont en général ceux qui ont l'intelligence de garder cet état d'esprit-là. D'un autre côté, on peut pas non plus faire. Il n'y a pas eu un basculement entre un moment où des petits labels indépendants sortaient des disques uniquement pour le plaisir et un moment où ces disques-là ont commencé à se vendre à grande échelle. Je pense que beaucoup de gens qui font des labels techno ont le font même de manière en le faisant de manière très détachée, le font pas de manière amateur. Et le fait que un disque marche pour un cercle qui soit autre que celui de quelques initiés, je pense que c'est vécu dans le monde techno de manière beaucoup plus facile, naturelle que par exemple dans le rock où le label indépendance devait se définissait vraiment en fonction par rapport à une marge et en opposition par rapport à un grand public. Je pense que dans la techno, chacun des petits labels indépendants qui a su se développer n'est pas en contradiction avec son essence de départ.
Absence de contradiction aussi au Queen le mercredi soir.
J'ai perdu le fil
sur cet esprit frondeur.
Vous ne suivez pas.
Sur cet esprit frondeur justement et cette absence de contradiction entre ce que ça devient et ce que c'était au départ.
Ouais, il y a une réalité, c'est que ça a 10 ans, donc faudrait passer à autre chose maintenant, en fin de compte.
Vers quoi alors ?
J'en sais rien, il faut brasser encore plus à mon avis. On va revenir à des chansons, quelque chose comme Stardust qui est numéro un partout, c'est quelque part une chanson. On va revenir, il faut oublier un peu les frontières. Au contraire, là où tout le monde, dans la semaine où tout le monde veut se revendiquer techno, il faudrait faire exactement l'inverse, je pense. Ça serait salutaire dans les temps à venir.
David est une excellente incarnation de cet esprit-là.
Merci.
Merci à tous les deux. Je rappelle que les soirées Respect, c'est le mercredi soir et que c'est gratuit, comme vous nous le disiez. Merci messieurs.
Merci.
Last night, DJ Save My Life, remixé par Silk 130.
Last night, a DJ saved my life, yeah. Cause I was sitting there bored to death. And then just one breath he said, you gotta get up, you gotta get off, you gotta get down, girl. You know you drive me crazy, baby. You got me turning to another man. Called you on the phone. No one's home. Baby, why leave me all alone?
We're sorry. Try your call again.
And if it wasn't for the music, I don't know what I'd do.
Baby, go out of my mind.
Yeah.
Étienne Racine, bonjour. Alors,
bonjour.
Vous êtes chercheur en ethnologie à l'École des hautes études en sciences sociales et vous avez axé l'essentiel de votre travail sur les pratiques festives de la techno.
Oui.
Jean-Philippe Renoux, vous êtes toujours avec nous. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du magazine Coda. Alors Jean-Philippe Renoux, est-ce que vous êtes content de ce qui se passe en ce moment en France? Catherine Trottmann, le ministre de la Culture, qui va faire une rave au Transmusical de Rennes. Jacques Lang, qui se transforme en parrain de la technoparade, qui va avoir lieu donc... je le rappelle, à Paris samedi prochain. Laurent Garnier, le pape de la techno française qui fait son entrée dans la Mecque de la variété française à l'Olympia. Est-ce que ce sont là des signes encourageants et les signes avant-coureurs d'une culture techno en marche ?
Bien sûr, ce serait dommage de s'en plaindre, c'est plutôt encourageant. Mais simplement, depuis que la culture techno, si tant est que culture y est d'ailleurs, a commencé à se développer, elle n'a jamais eu besoin de cette reconnaissance officielle, voire quasi paternaliste, que maintenant un ministère de la Culture voudrait imposer. Elle a toujours fonctionné sans. Alors je pense qu'elle peut fonctionner avec, mais ce n'est pas ça qui va la faire avancer davantage. Il y a peut-être même danger si une reconnaissance officielle, institutionnalisée, pourrait niveler par le bas la techno. Moi, je me rappelle que Jacques Lang a développé le rock en son temps, mais à partir du moment où Jacques Lang est entré dans la place, le rock est devenu quasiment misérable, quoi.
Il était à la soirée Respect mercredi dernier, d'après ce que disait Eric Dahan dans un papier de Libération.
Non, il dit qu'il sera là demain, mais je ne suis pas au courant.
Dominique Treilloux.
Jean-Philippe, pour nous, justement, il y en a qui disent que dans ce passage de la techno underground à une visibilité quasi institutionnalisée, en tout cas acceptée par l'institution, il y en a qui disent donc que la techno aurait perdu son âme. Qu'est-ce que vous pensez de cette opinion?
Pour répéter ce que je disais en première partie d'émission, quand on dit la techno, on devrait plutôt dire les technos, et chacun engendrant des branches qui peuvent être finalement super contradictoires. Donc il y aura toujours un aspect très underground et un aspect overground. Et c'est même d'ailleurs salutaire que ce qui est underground un jour devienne overground le lendemain. C'est la mécanique qui est intéressante. À partir du moment où la techno deviendrait figée, elle mourra. Elle est obligée de se nourrir, elle est boulimique par définition, elle n'est absolument pas isolée dans le paysage musical, elle se nourrit de tout ce qui l'entoure. Le jour où elle n'a plus rien à bouffer, elle mourra de faim. Alors, je ne crois pas que ce soit Catherine Trautmann qui donnera plus à manger à la techno, mais maintenant, si Catherine Trautmann pense que la techno est une musique intéressante et qu'elle le fait savoir, oui, bravo, évidemment. Et si Laurent Garnier remplit les planches de l'Olympia en faisant un succès, c'est évidemment bien, mais que ça marche ou que ça ne marche pas, la question n'est pas là, puisque de toute façon, par définition, la techno devrait continuer à fonctionner d'elle-même, même dans l'underground le plus strict.
En tout état de cause, vous préférez de toute façon la définition ministérielle de la techno à la définition préfectorale, comme rassemblement de personnes à chasser par les CRS parce qu'ils vendent et prennent de la drogue.
J'ai beaucoup aimé la définition préfectorale. Je me demande si d'ailleurs ces arrêtés préfectoraux n'ont pas fait plus de publicité à la techno que le contraire. C'est-à-dire que je me demande si moi, quand j'écrivais dans Kodak, la techno était une culture intéressante et qu'il était plutôt salutaire de s'y retrouver. Je suis sûr que certains préfets de région, en interdisant à des jeunes gosses de 15 à 18 ans d'aller en rêve, ils les ont certainement poussés dans la rêve. Donc ça nous a donné un nouveau public. Merci les préfets.
Ce fameux goût de l'interdit ?
Mais forcément, et ça c'est pas nouveau, c'est pas la techno qui l'a inventé.
Alors Étienne Racine, David Blow parlait tout à l'heure dans le grill des raves. Vous avez donc longuement étudié la rave en ethnologue que vous êtes. Mm-hmm. Alors Nicolas Demorand parlait des raves interdites. Alors qu'est-ce qui se joue dans ces fêtes en termes de drogue, effectivement, comme on l'a dit, en termes de sexe, en termes de rapport à la musique, en termes de rapport à soi et en termes de rapport à l'autre?
Ça fait beaucoup de questions d'un seul coup. Bon, je me suis intéressé à toutes les pratiques festives techno, donc les rêves illégales, celles qu'on appelle communément les free parties, les rêves légales, donc ça va de la métropole techno à Bercy, à toutes les rêves qui se passent dans le cadre de la législation, et ça inclut également les fêtes en club. Donc ce qui se joue alors, dans les fêtes clandestines au sujet de tous les points que vous avez spécifiés, c'est beaucoup de choses, en tout cas pour ce qui est du sexe, en tout cas il n'y a pas de sexe, pas plus que dans la plupart des autres pratique festive. Mais il faudrait peut-être vous préciser un peu la question.
Est-ce qu'il y a un enjeu social ? Est-ce qu'il y a une rencontre qui se fait dans ces fêtes libres ou interdites ? Est-ce qu'il y a une rencontre sociale entre différentes couches de cette population ?
Alors, bien sûr qu'il y a des enjeux sociaux à travers toutes les pratiques festives techno, pas simplement les rêves illégales, mais même les clubs les plus officiels. Globalement, le temps de la fête, c'est un temps de sociabilité, c'est-à-dire c'est un temps de coprésence d'individus qui s'identifient à des valeurs et des signes collectifs. Et la pratique des fêtes techno, quelles qu'elles soient, sur le long terme ou sur un moyen terme, à l'échelle de la vie de l'individu, c'est une pratique de socialisation. Alors après, si on veut dire des choses plus précises, il faut commencer à différencier la façon dont les gens participent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont sortir en fête techno deux ou trois fois dans leur vie, et d'autres qui vont sortir régulièrement pendant par exemple 10 ans, et certains qui vont se professionnaliser, c'est-à-dire qui vont devenir disc jockey ou organisateur de soirée.
Alors justement, on parle de tribus, on parle d'une fête qui tendrait à abolir les frontières ethnographiques, les frontières géographiques. Dans quelle mesure c'est un enjeu social ?
Alors, je pense que le terme de tribu, il est un petit peu surfait, il faut s'en défaire. Il est la tribu au sens pur, c'est un groupe d'individus qui partagent un espace géographique, qui partagent des façons de manger, des façons de se reproduire. Quand on emploie le terme de tribu aujourd'hui dans les sociétés contemporaines, on l'emploie de façon métaphorique. À mon avis, il est un petit peu trop médiatique ce terme, mais il faut s'en défaire. Il n'y a rien de nouveau, en tout cas en termes de relations sociales, autour des pratiques festives techno aujourd'hui.
Dominique Treilloux.
Oui, bien, revenons quand même à ce problème de la drogue. Est-ce que associer rêve et ecstasy, c'est une opération stratégique, ou est-ce que c'est une réalité ? Est-ce que c'est encore une réalité actuellement ?
Je pense que c'est les deux, c'est-à-dire que ça a été une opération stratégique qui a servi les intérêts de ceux qui avaient à un moment donné envie que les rêves ne puissent pas avoir lieu. Et à côté de ça, c'est une réalité, mais ça n'est pas une réalité extraordinairement spécifique. C'est-à-dire effectivement, il y a des liens entre les pratiques culturelles, les pratiques passives techno et certaines substances psychotropes, de la manière qu'il y a des liens entre ces mêmes substances psychotropes et toutes sortes d'autres univers culturels. L'ecstasy, par exemple, est consommé chez les supporters de football en Angleterre et donc voilà. voilà, donc le lien n'est pas absolu en fait.
Alors finalement, la REF, c'est donc une communauté qui se réunit pour la fête, et la fête, c'est quelque chose de ponctuel et d'hors du temps, mais est-ce que derrière ça, il y a quelque chose comme une contestation ou une amorce de démarche politique?
Alors, oui, je dirais que ça n'est pas explicitement politique, mais parce qu'il y a au travers de ces pratiques une réflexion sur le social. Lorsque les individus choisissent d'aller dans tel ou tel type de fête, d'écouter tel ou tel type de musique, ils prennent des options sociales. Donc, c'est-à-dire qu'ils portent un regard critique sur la société qui les entoure. Et à moyen terme, c'est un processus qui participe d'une prise de conscience sociale et parfois qui amène les individus à créer des associations, à créer des organisations ou des groupes plus ou moins formels. Et ça les amène parfois à prendre des positions politique. Donc ça n'est pas explicitement politique, mais ça n'est pas pour autant fondamentalement apolitique. Je dirais que ça participe d'un processus de socialisation et que donc finalement on se retrouve avec les pratiques festives techno avec un point commun à toutes les pratiques pop, rock, toutes les pratiques musicales de l'après-guerre, c'est-à-dire qu'il y a une ambiguïté entre à la fois un message contestataire, crypto-révolutionnaire et à la fois un goût du plaisir, des pratiques hédonistes. Donc il y a cette ambiguïté dans toutes les pratiques pop de l'après-guerre, on les retrouve au sein des pratiques festives techno et ça n'a rien d'original en fait.
Alors Étienne Racine, certains se revendiquent même de l'idéologie New Age ou des religions orientales. On parle de l'entrée prochaine dans une ère de paix et de spiritualité, d'une vision globalisante du monde, d'un monde sans frontières, donc comme je le disais, ethnique et géographique. C'est pas un peu mystique, c'est un peu utopiste?
C'est-à-dire, si, ça l'est, et c'est-à-dire, ce n'est pas une utopie nouvelle. Dès les années 70, on entendait parler de Woodstock Nation, ensuite, donc, il y a eu la Zulu Nation, il y a la House Nation, Techno Nation, Rave Nation, il y a...
Les cyber hippies.
Beaucoup de choses sont imaginées, mais dans la réalité, la transnationalité des phénomènes est tout à fait limitée. C'est-à-dire qu'il y a toujours des déterminismes locaux, culturels, nationaux, régionaux, qui font que, finalement, là où la techno ou quelque musique, que ce soit, se développe, elle est influencée par ses caractéristiques locales. Puisqu'il fait que, par exemple, la parade parisienne de samedi prochain sera pas du tout une copie de ce qui se passe à Berlin, parce que, premièrement, tout simplement, on n'est pas en Allemagne, on n'est pas à Berlin, c'est pas le même contexte culturel, donc cette parade, de même que toutes les pratiques festives techno, sont forcément différentes, en tout cas présentent des traits caractéristiques par rapport à celles qui se déroulent dans d'autres pays.
Jean-Philippe Renaud.
Je suis très d'accord avec ce que vous dites, Étienne Racine, donc pour référer la rêve en tant que lieu de socialisation. Alors, on parle d'un message qui pourrait éventuellement découler de ça. Je pense que justement, c'est le lieu du non-message. C'est peut-être ce non-message qui devient d'autant plus alarmant aux yeux des autorités, à un moment où il y avait une espèce de chasse aux sorcières du temps des premières rêves en Europe. Il est vrai que si on n'a pas de message à dire, il n'y a pas de message à récupérer. Et ça, en un sens, c'est certainement peut-être la meilleure manière de se protéger vis-à-vis de l'establishment. À partir du moment où la techno, maintenant, se syndicalise, d'une certaine manière, avec ses guerres de chapelle internes, je ne suis pas sûr que là, dans ce cas-là, on n'assiste pas à un effondrement global du truc, parce que forcément, il y aura une ghettoisation, une récupération d'autant plus facile.
Qu'est-ce que vous entendez par guerres de chapelle qui sont liées à la musique elle-même, ou alors aux à-côtés?
Alors, certainement les deux. Alors, bien sûr, c'est vrai que c'est pas... Il n'y a pas forcément beaucoup de points communs entre un amateur de deep house ou de musique garage, qui est essentiellement une musique house chantée et de tradition gospel, avec un fan de Manuel Malin. C'est peut-être même les deux opposés d'un même spectre. Mais à partir du moment où on veut essayer d'opposer ces gens-là, on arrivera forcément à créer des séparatismes, et ce sera d'autant plus facile de casser les petits messages que chaque chapelle voudra maintenant promulguer à la face du monde. Il n'y a absolument pas besoin de messages, il n'y a absolument pas besoin d'une reconnaissance culturelle, comme je disais tout à l'heure, pour que cette musique avance.
Nicolas Demorand.
Et c'est donc pas un message d'acceptation, tout simplement. Le non-message étant une acceptation de l'ordre social et la capacité à s'intégrer dans ces circuits, dans des circuits de production. Justement, comme le disait Dominique à l'instant, le temps d'une fête, la rêve étant une parenthèse. Avant, il y avait l'ordre, après, il y a le retour à l'ordre.
Exactement, c'est un non-lieu. Maintenant, si on s'écarte de la fête, parce que je crois que ce serait vraiment terriblement réducteur de limiter la techno à une rêve, à une fête, à ce qui se passe dans un club.
Même à des rêves, à des fêtes.
Voilà, même si c'est la surface saillante de l'iceberg. Mais la techno, de manière générale, a totalement redéfini les processus de distribution, les principes de communication, Alors a fortiori, les technoïdes sont plutôt au fait et aguerris avec le matériel électronique, donc ils vont surfer aisément sur Internet, ils vont pouvoir se doter très très facilement d'un réseau pour pouvoir enregistrer un disque dans un arrondissement de Paris et le vendre très aisément quelques jours plus tard dans une boutique spécialisée japonaise. Il y a une notion de réseau qui est à mon avis beaucoup plus importante que la notion de tribu, voire même qu'une une notion de socialisation qu'on va voir apparaître en rêve.
Oui, je vous interromps.
À partir du moment où cette musique est conçue, il y a une volonté chez les gens qui la font de la vendre. Il y a aucun, il faut pas être péjoratif. La musique de dance, c'est une musique qui par définition se vend. C'est pas une culture, c'est pas forcément de l'art, c'est pas de la science. Mais il s'agit maintenant de la vendre dans des lieux appropriés, avec des réseaux appropriés. Et comme ces réseaux n'existaient pas auparavant, il y a ne serait-ce que 10 ans, parce qu'ils étaient dominés par des très grosses structures, par des majeures compagnies du disque, par des systèmes de distribution un petit peu lourds, ces systèmes-là se sont créés des microsystèmes, des micro-labels qui vont diffuser dans des mini-boutiques de disques. Et ça suffit pour provoquer un bouche-à-oreille évident, parce que dans ce cas-là, la communication va très très vite. Alors elle dépasse largement le cadre de l'hédonisme, même un tant soit peu babacool, qu'on peut voir en rêve. Il y a toute une structure derrière, et maintenant une économie qui est en place.
Et comment vous réagissez à une phrase comme celle de Michel Gaillot, qui est philosophe, qui va sortir un livre prochainement sur la techno, et qui dit que ce qui se montre dans les rêves, finalement, c'est beaucoup plus une communion qu'une communauté ? C'est ça l'idée de réseau ?
Certainement, puisque
sorte de fusion,
l'intérêt de la rêve, c'est peut-être de mélanger les communautés. Et attention, la rêve n'a absolument pas la paternité de cette espèce de nouvel esprit, puisqu'il suffisait d'aller dans une boîte disco comme le Paradise Garage à New York, qui est aujourd'hui complètement mythique, et qui, autour d'un DJ complètement emblématique qui s'appelait Larry Levin, réunissait toutes les communautés un petit peu paria de New York et ses environs, et on y trouvait 600 blacks, 600 latinos, 600 gays, 600 je ne sais ceci, je ne sais cela, qui partageaient la même énergie autour d'un DJ, autour d'un club, autour d'une ambiance. Donc, faut pas non plus penser que la techno est arrivée pour balayer tout ce qu'il y avait et dire « nous, on invente tout ». Absolument pas. La techno s'approprie. Elle fait du sample, aussi bien physiquement quand elle pique des phrases musicales, que dans la manière même de diffuser sa propre musique, sa propre économie.
Alors justement, elle diffuse vers quoi ? Puisqu'on parle de culture, est-ce qu'elle diffuse par exemple vers la littérature ? Est-ce qu'il y a une littérature techno qui existe ?
On assiste à une « chemicals book generation », comme le disent les Anglais. Donc une génération, une littérature chimique. Alors la meilleure illustration qu'on a, ce serait certainement « Trainspotting », qui était une pièce de théâtre, un livre, avant de devenir finalement le film à succès qu'on connaît. Et alors il y a une espèce d'auto-parodie évidente chez les acteurs de la scène techno et a fortiori chez les gens qui écrivent dessus et qui s'imposent peut-être une réflexion et un recul plus aisément que celui qui va juste danser en rêve. Et comme si on en prévoyait à l'avance la dérive et qu'on pouvait se moquer de soi-même à travers la littérature. Pour ça, c'est vrai, est un bon support. C'était pas évident d'ailleurs de transcrire un BPM, qui n'est pas plus abstrait en soi qu'en musique.
Mais est-ce qu'elle parvient vraiment, la littérature ? Parce que quand on prend des exemples comme le recueil de nouvelles Disco Biscuits, qui a été lancé en club aussi, ce qui pouvait être intéressant avec une compilation à côté, donc parvenant à effacer un petit peu la frontière entre le recueil de nouvelles et la compilation et essayant d'entrecroiser les deux genres, ou encore un autre texte comme Ecstasy Club, est-ce que vous ne pensez pas quand même que ces romans se complaisent un peu facilement dans la description d'un milieu, c'est-à-dire c'est un milieu, un espace, la rave, un certain personnel romanaise, des DJ qui perdent leur bac de disques, etc. Ça peut conduire à des situations cocasses, mais c'est quand même, il n'y a pas d'élaboration littéraire là, véritablement.
Non, je suis entièrement d'accord. Il y a même une certaine complaisance, si vous voulez, à caricaturer ses propres défauts, mais à partir du moment où c'est une caricature au second degré et que derrière, finalement, l'aspect purement descriptif d'une rêve. Décrire une rêve, ça n'a rien de très très excitant en soi. Par contre, la vivre, ça peut être excitant. Et à partir du moment où ces auteurs prennent ce prétexte pour pouvoir raconter autre chose, pour pouvoir sublimer ce qu'ils ont connu, parce qu'ils ont été élevés avec ça, ils ont connu ça, ils se servent de ce propre background culturel qu'ils ont vécu en dansant môme en rêve, pour pouvoir créer maintenant ce à quoi ils se sentent le plus doués. Alors, ils auraient pu être DJ, ils auraient pu être techniciens de studio, ils sont écrivains, et forcément, ils se nourrissent de ce qu'ils ont connu.
Étienne Racine, vous êtes plongé dans cette littérature dite techno, parce que finalement, comme vient de le rappeler Jean-Philippe Renoux, ça n'est que la description d'un univers qu'on connaît déjà à travers la science-fiction, à travers la bande dessinée. Est-ce qu'on peut vraiment taxer cette littérature par sa phraséologie, par sa construction d'une littérature techno ?
En fait, À vrai dire, je sais pas si c'est une bonne question. Je sais pas s'il faut cette partie.
Je vous remercie.
Il faut pas la prendre personnellement. Non, je sais pas si c'est un bon angle d'approche que de partir des pratiques festives et de ces musiques et d'essayer de voir si on peut étendre ça à ce qu'on appelle une culture avec un grand C, à savoir des institutions littéraires, graphiques, musicales qui sont reconnues par les groupes dominants de la société. Je pense qu'il ne faut pas oublier que, en fait, ce que désire la grande majorité des jeunes qui sortent dans ces fêtes, c'est une évasion. Et donc, pour eux, la question ne se pose pas de savoir s'ils vont pouvoir générer une littérature qui va pouvoir être reconnue par un certain nombre d'élites intellectuelles en tant que littérature. Je pense que ce n'est pas leur question. Initial.
Maintenant, c'est clair qu'il y a un petit phénomène de mode autour de cette Chemical Generation Book. Là, il faut aussi prendre du recul. Je ne suis pas sûr que les livres qu'on ait nommés, même s'ils sont très plaisants à lire sur l'instant et donnent une espèce d'instantané du présent assez amusant, je ne pense pas que ces livres deviennent des futurs classiques.
Alors là où on a un petit peu plus de distance, c'est par rapport à un auteur de romans policiers, on appellera ça aussi faute de mieux, comme Maurice Dantec. Christophe Kim, je sais que vous aviez participé à un entretien fleuve de Maurice Dantec. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a là vraiment ce qu'on pourrait appeler une littérature techno, là encore peut-être faute de mieux, mais c'est-à-dire une littérature qui s'interroge sur le concept de territoire, sur les flux d'informations, sur les flux de violence, qui tente à son niveau de sampler. Il y a des longs passages sur Deleuze chez Dantec, il y a des longs passages sur la cabale, etc. Est-ce qu'il n'y a pas chez Dantec une première vision littéraire de cet univers-là?
En fait, ce qu'on disait tout à l'heure sur la musique techno, c'était ce qu'on remarquait, c'était sa capacité à s'approprier des tas de musiques différentes et de piocher un petit peu à droite à gauche pour se ressourcer en permanence. Et on ne doit pas attendre de la littérature de faire de la techno, si ce n'est justement en s'inspirant de ces méthodes-là de création, au fond. Il ne s'agit pas de décrire un univers, à mon avis, qui est l'univers référencé de la techno. Comme on dirait, il y a un roman rock ou il y a des films rock. Il y en a eu. Ce ne sont pas forcément de grands films ni de grands livres. Mais au fond, quand Dantec, dans Les Racines du Mal, adopte un dispositif qui est celui du rhizome pour créer son livre, donc partant d'une bibliographie d'une trentaine d'ouvrages et puis travaillant avec ce matériau en permanence et modulant tout son texte à travers ces textes-là, on peut dire en effet qu'il y a de fortes correspondances entre ce qu'il fait lui sur le plan littéraire et ce que font des DJ sur le plan musical. Ça, c'est pas une exception, je dirais, dans le domaine de la littérature. Les approches transversales, les approches qui consistent à essayer d'aller traverser différents niveaux de culture, comme on l'a vu aussi avec la musique techno, pour laquelle la frontière entre musique savante et musique populaire n'existe plus, qui considère le son dans son ensemble, et une littérature qui considérerait un petit peu l'intertextualité, pardon, comme étant son domaine de travail, ça existe en effet, et ça existe aussi dans des textes collectifs ou des choses comme ça.
Alors Christophe Kim, comme vous êtes resté avec nous, je rappelle que vous avez été donc le coordinateur de ce numéro spécial Art Press consacré à la techno, et puisque tout le monde est resté avec nous autour de cette table, je vous propose une petite récréation. Alors Étienne Racine, vous parliez de graphisme. Alors il existe un secteur privilégié où la texture techno s'exprime, à savoir donc le graphisme, justement celui des flyers, sorte de petits cartons d'invitation de toutes les formes, de toutes les couleurs, des flyers qui servent à annoncer tous les événements liés à la techno. Alors Olivier Doubre s'est rendu pour Staccato à une exposition d'œuvres d'art composée avec ses petits cartons, une exposition qui se tient à Glassbox, rue Oberkampf à Paris.
Un petit tablier sur lequel tu peux mettre... En fait, c'est vraiment réservé à un serveur, hein, dans une soirée par exemple au WhatsApp. Hein, et il met le flyer de la soirée sur son tablier. Donc comme ça, il est un peu homme sandwich et il devient un peu porte-flyer pour la soirée. Quoi, tout simplement. Possibilité de changer et d'intervertir. Donc là par exemple il y a Séverine de X-Designs en fait, qui fait des choses qui, par rapport au thème donné, qui s'adaptent très bien à ce qu'elle fait habituellement. En fait elle, à la base elle fait des cloisons qui sont mobiles, hein, qui sont des petits carrés qu'on assemble par des anneaux, qui sont en miroir pour séparer des pièces ou éléments de décoration tout simplement. Et donc là c'est vrai que c'est une technique qui se prête bien en fait aux flyers, quoi, qui permet d'en mettre différents, etc. Donc là elle l'a traité, elle a fait des jupes, des sacs.
Qu'est-ce que c'est un vêtement techno?
Techno c'est technologique, donc à la base c'est des vêtements qui sont avec des matières un peu nouvelles ou des mélanges qui étaient plutôt réservés peut-être à la base à l'aéronautique ou... Enfin, je pense que c'est dévier les matières, c'est faire autre chose avec des matières qu'on utilise traditionnellement pour un autre usage. Quoi. Donc, justement, c'est comme pour la musique techno, d'ailleurs, c'est tellement large que ça englobe plein de choses, quoi, donc c'est ce qui est intéressant.
Ce qui est amusant, c'est de travailler un papier, déjà, et ensuite un support publicitaire, parce que non seulement le sac véhicule son image, l'image du créateur du sac, à l'arrière, mais aussi l'image de la personne qui la porte, parce que il y a les soirées auxquelles elle participe, la vie qu'elle a, c'est tout un style de vie. En général, un sac à main, on découvre la personne en l'ouvrant, et là, en fait, la personne, elle est à nu, justement, par le flyer.
Je vais peut-être faire une extrapolation. Ouais. C'est assez techno, ça, de montrer en surface les choses, sa vie ou son mode de vie.
Oui, c'est possible. Ça demeure superficiel, ceci dit, si on le considère comme ça. Mais c'est très techno, oui, exactement.
Il y a une jupe, là, en face de moi, faite de flyers. Quoi d'autre? Je vois un soutien-gorge. Non, il y a pas mal de choses, quoi, c'est marrant.
Ça change.
Vous les collectionnez, les flyers?
Je dois dire que j'en ai un sacré paquet, ouais. Trop, je sais plus quoi en faire.
Jean-Philippe Renoux, vous avez entendu ce qui vient d'être dit, ça demeure superficiel et c'est techno. Alors c'est ça la culture techno, c'est une culture superficielle?
Mais c'est autant quelque chose d'underground que quelque chose de superficiel, c'est souvent ce qui fait son intérêt. C'est vrai que porter une robe constituée de flyers, ça fait partie du superficiel. Et en général, la club babe qui portera une robe faite de flyers ne sera pas forcément la personne qui va acheter des disques régulièrement chez un disquaire indépendant pour s'informer de ce qui se passe. Mais c'est aussi une facette de la culture techno. Je crois qu'il ne faut pas oublier ce rapport complètement ludique, ce rapport au corps qu'il y a avec la techno et avec tous ses dérivés. On parle d'une musique de danse, on parle d'une musique qui fait appel au corps. Donc on n'est pas obligé de s'instruire, on n'est pas obligé d'acheter des disques, on peut tout simplement le vivre de manière passive, mais ça n'empêche pas qu'on participe à quelque chose d'assez global.
Nicolas Demorand.
Christophe Kim, dans le hors-série d'Art Press, vous consacrez une longue interview à Jérémy Dalleur, qui est lui aussi plasticien, qui fait partie de cet univers plastique techno, mais qui le travaille d'une manière plus intéressante, puisqu'il a demandé à une section cuivre, à un brass band, de rejouer un certain nombre de tubes ou de morceaux fétiches de la house.
Oui, tout à fait. Alors, pour revenir un petit peu sur cette culture techno, il se trouve qu'il y a en effet un certain nombre d'artistes qui travaillent d'une part avec un matériel qui serait l'Internet, et on pourrait même dire que d'une certaine manière les pirates Internet sont des artistes techno. D'un autre côté, il y a une tradition de l'image aussi dans l'art contemporain, de Nan June Peck à Bruce Nauman, qui est tout à fait... qui pourrait servir de direction pour certains artistes aujourd'hui qui utiliseraient un petit peu plus l'image ou la culture techno comme source d'image. Pour ce qui est de Jérémy Dalleur, c'est réellement d'un déplacement qu'il s'agit, d'une déterritorialisation de la techno elle-même à travers une soudure historique, un pli historique encore une fois qui est assez intéressant. Il se trouve que il est issu d'une ville du nord de l'Angleterre qui a vu donc ses industries dépérir très rapidement et que le brass band la fanfare ouvrière en fait qui était constituée donc de gens qui travaillaient dans l'usine a peu à peu disparu de cet univers-là et a été remplacé brutalement par l'acid house. Et l'idée de Jérémy Dalleur, c'est de faire se rencontrer ces deux univers qui ne se sont jamais rencontrés, pas du tout dans un but, je dirais, mélancolique. Il ne s'agit pas de faire pleurer les gens avec des tubes acid house joués
de manière un peu baroque, comme on l'entend un petit peu.
Il s'agit surtout d'essayer de renouveler le répertoire de la fanfare en réalité, et je trouve que le disque est absolument merveilleux.
La reprise par une section cuivre du fameux Pacifique 202, un morceau mythique, là encore.
Dominique Treilloux.
Pour finir, Jean-Philippe Renoux, on a l'habitude de définir la culture comme quelque chose qui va rester, comme un patrimoine. Et ce qu'on a vu aujourd'hui pendant une heure et demie, c'est que ce qui caractérise la culture techno, c'est le contraire, c'est l'éphémère, c'est l'instantané dont vous parliez tout à l'heure. Alors, ou bien la techno n'est pas à proprement parler une culture, ou bien elle en propose une autre.
Je serais presque d'avis à penser qu'elle en propose une autre. C'est-à-dire qu'on peut en garder des instantanées et en faire des images culturelles. Mais comme l'intérêt de la techno, c'est d'être dans une constante mouvance, toujours s'alimenter de ce qui était avant pour pouvoir projeter quelque chose dans l'après, on peut supposer que peut-être pas grand-chose ne reste. Alors, allons voir si ça va construire quelque chose après. On va se transposer 10 ans plus tard.
Étienne Racine, qu'est-ce qui va rester de tout ça ? D'un mot.
Ce qui va rester, c'est des images et c'est ces discussions aussi enregistrées, déjà qui permettent à la société de se penser elle-même. Qu'est-ce qu'on fait finalement tous autour de cette table ? C'est qu'on réfléchit à ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde et c'est déjà beaucoup en fait d'effet pour cet espace culturel.
Eh bien, messieurs, merci à tous. Eh bien, Sylvie Liprini, bonjour et common, vous êtes toute bronzée, vous revenez de vacances ?
Oui.
Alors aujourd'hui, vous allez, avec votre petit air coquin, comme ça, vous allez nous proposer quelque chose de nouveau à découvrir, c'est bien ça ?
Et oui, parce que Sylvia, c'est notre mère à toutes et à tous, et elle est très prévoyante, puisque la semaine prochaine, samedi, il y a donc cette technoparade, et vous êtes allée faire des préparatifs, Sylvia.
Oui, ne disons pas trop que je suis la mère à tous, parce que j'ai seulement 34 ans, mais ce que je disais tout à l'heure, seulement, oui. Ce que je disais tout à l'heure en expliquant mon expérience et mon initiation à la techno, c'est qu'au début, quand je suis rentrée dans le club, dans la boîte où j'ai commencé à me plonger dans les atmosphères techno, j'ai vu que les autres personnes étaient beaucoup plus jeunes. Ils avaient entre 20 et 24 ans. Alors, on m'a dit qu'il ne faut pas dire que ce n'est pas un lieu pour personnes âgées. Et c'est vrai, parce qu'on n'est pas repérés comme des extraterrestres qui sont tombés dans un lieu ennemi. Au contraire, on est accueillis très bien. Et puis, je trouve aussi que les videurs à l'extérieur ne sont pas méchants, comme ça arrive souvent dans les boîtes très branchées. Et même s'il y a un look, on peut rentrer comme on est.
Vous êtes rentrée sans problème.
Oui, oui, je suis rentrée sans problème. Et puis, c'est vrai que, comme on disait tout à l'heure, la première impression, c'est qu'on a envie de s'échapper, de fuir, parce qu'on n'a pas l'habitude forcément de cette musique. Moi, j'avais une culture plutôt rock, donc c'est vrai que la techno, des fois, n'est pas très simple à comprendre. Donc, on a cette réaction, on voudrait partir, mais c'est bien d'y rester, parce qu'à un certain moment, déjà, il faut dire que dans ce lieu, il y a une lumière qui est assez tamisée. C'est pas la lumière des années 70 ou de la culture disco. Et aussi, les lieux, en général, sont assez foncés. Et tout est fait pour rentrer dans cette atmosphère, donc de plonger dans cet univers qui n'a pas ni d'espace, ni de temps. Et peu à peu, donc on rentre dans ce rythme. Le rythme a beaucoup d'importance, parce que c'est le rythme qui nous donne l'envie de fuir. Et puis, c'est ce rythme même qui nous fait rester là-bas, même collé dans la discothèque, et puis finalement je suis arrivée jusqu'à 5h du matin sans même pas m'apercevoir, parce que je ne sais pas si j'étais dans une transe, mais c'est vrai que ce rythme répétitif à un certain moment amène à ne plus penser à rien. Donc c'est vrai qu'on s'y sent bien et ça fait du bien à l'esprit de temps en temps de s'échapper de ses problèmes. Je n'ai pas eu le courage de continuer jusqu'au after, parce que bon, ça commence à 5h du matin, normalement ça continue jusqu'à 10h du matin, mais ça peut être intéressant pour les gens qui veulent voir l'effet que ça donne de passer d'avant des boîtes.
Alors vous avez lâché le mot after before, vous allez nous expliquer maintenant de quoi il s'agit.
Voilà, parce que comme tous les mondes d'initiés, donc il y a tous ces mots, hard, techno, tribal, techno, jungle, trance, hardcore, je n'expliquerai rien de tout ça, ils l'ont déjà fait avant moi très bien, mais c'est vrai qu'il y a tout ce langage qu'il faut connaître un petit peu, et il faut savoir aussi que maintenant, même quand on regarde les chroniques du Figaroscope, qu'on ne peut pas dire qu'ils soient vraiment les journaux les plus branchés et les plus adressés à des jeunes générations, ben on trouve tous ces mots, parce que c'est vrai qu'elles sont annoncées et que maintenant sur Nova Magazine et dans beaucoup d'autres journaux, on trouve ces termes, on donne comme par acquis que tout le monde connaît ces noms. Alors les before, c'est quoi ? C'est la préparation. Donc on commence à aller dans des lieux comme les comptoirs, les wait and see ou les WhatsApp bar ou d'autres. Et donc on commence à se mettre dans les bains, on commence à s'acclimater ou acclimater à l'atmosphère. Donc on commence à écouter la musique. Normalement, Donc je vais les relire. Voilà, les BPM sont plus calmes parce que c'est la phase préparatoire. Donc on boit un coup. Dans certains lieux, on a même des vidéos. Donc on peut commencer à danser dans les sous-sols et après on se prépare pour aller dans les clubs. Donc c'est là qui se passe les clous, les gros de la soirée. Donc les boîtes incontournables aujourd'hui sont les Rex Club. Donc le jeudi soir, c'était les grands lieux de Laurent Garnier. Bon, maintenant il y en a d'autres. Il y a les Jubus qui était un lieu du rock qui s'est reconverti à la mode techno. Il y a bien évidemment les soirées respect au Queen et il y a aussi les bains. Donc il faut savoir que maintenant beaucoup de discothèques qui sont à la mode ont envie d'avoir leur soirée techno. Alors il y a une boîte qui je ne sais pas si il faut définir une boîte parce que c'est plutôt un café, c'est la Flèche d'Or Café. Et je trouve que c'est un bon exemple parce que c'est un lieu où il y a du tango, de la salsa, du latino, du brésilien. Et bien là aussi on peut trouver la soirée techno dans une ambiance qui montre bien que les lieux n'a pas vraiment beaucoup d'importance.
Vous y allez dans ces lieux-là, Jean-Philippe Renou?
Oui, c'est même mon rôle maintenant d'écumer pratiquement tous les endroits de Paris, quitte à en chercher de nouveaux. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de lieux comme ça qui conjuguent une espèce d'esthétique techno, une culture techno. Chacun garde ses particularités. J'étais très content que vous citiez la Flèche d'Or qui garde un côté très populo, mais populo sympa. C'est-à-dire que c'était presque comme si je m'étais retrouvé dans les années 30 dans une culture apache à danser le java. Simplement, c'était un java électronique, mais je pense que ça s'insère complètement dans une culture très franchouillarde. Là, pour peu.
Alors, Sylvia Luperini, quand vous dites before, vous allez donc dans ces endroits dont vous nous avez parlé, mais comment on y va? On s'habille comment pour aller dans une fête techno?
Alors justement, parce que c'est un monde, un univers qui a ses fringues, donc pour y aller, il y a un magasin que j'aime beaucoup, ça s'appelle Le Shop. Alors il y en a d'autres qui sont beaucoup plus branchés, comme Colette, qui maintenant est dans toutes les revues, parce que là, il y a les tennis qu'il faut, c'est-à-dire les tennis un peu surélevés. Mais,
cite pas de marque, hein.
Mais c'est pas une marque, Colette, c'est un magasin qui on trouve à droite et à gauche parce que justement dans tous les magasins est cité pour avoir tous les necks plus ultra de ceux qui à la mode. Mais les shops, je disais, c'est beaucoup plus sympathique parce que c'est entre les Halles et la place des Victoires qui est l'autre lieu des stylistes parisiens. Et c'est un endroit où on trouve les fameux streetwear et clubwear, c'est-à-dire tout ce qu'il faut, les t-shirts moulants, un peu psychédéliques, avec des dessins, avec des couleurs très, très fortes, avec aussi les labels des maisons de disques, parce que ça, c'est quelque chose que c'est bien de porter, parce qu'on montre qu'est-ce qu'on aime bien.
Alors je vous dis, il n'y en a aucun autour de la table qui est habillé comme ça, hein.
Aucun, oui, mais ils ne sont pas en train de danser, ils ne sont pas en train d'aller... Mais je le disais tout à l'heure, hein, ce n'est pas obligatoire. Moi, je suis rentrée pas du tout habillée comme ça, mais c'est vrai que la grande majorité, on le verra bien à la Technoparade, s'habille avec des t-shirts un peu moulants, avec des cheveux qui sont souvent colorés.
Il faut se déguiser, donc.
Non, ce n'est pas un déguisement. D'ailleurs, je crois que dans les métros, on les voit très souvent. Ce n'est pas du tout un déguisement, c'est une façon de s'habiller qui colle bien à la technologie.
Qui met en valeur le corps, quand même.
Qui met en valeur le corps, oui, mais...
Il y a une culture du corps, Jean-Philippe Renou.
Oui, dans la mesure où il y a une culture du corps, je pense que le vêtement se doit d'être saillant, un petit peu près du corps. Oui, c'est tout à fait logique. Comme est habillé Étienne Racine aujourd'hui.
Non, moi je ne suis pas habillé près du corps du tout, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que
dans
les rêves parties, on retrouve aussi beaucoup de vêtements très très larges, et ça correspond aussi à cette période de l'adolescence. Parfois, on a, autant pour les filles et les garçons, on n'a pas envie de montrer son corps, on ne l'assume pas encore complètement, il y a aussi ces versants-là.
Le vêtement doit être pratique. S'il s'agit de danser toute la nuit, en suant à l'intérieur, autant aussi avoir quelque chose d'ample, un petit peu baggy, dans lequel l'air puisse circuler, plutôt que d'avoir une tenue en latex, qui serait peut-être moins pratique. Un soupule en lycra. Non, c'était même pas du nylon. Le nylon.
C'était l'horreur.
Rappelons-nous le nylon dans les années 70.
L'éponge.
Sylvia, des dernières recommandations?
Je dirais qu'il faut se préparer donc à ces technoparades pour apprendre ces nouveaux mondes que est bien de connaître, même si on n'a plus 20 ans.
Merci Sylvia Luperini.
C'était un numéro de Staccato d'Antoine Spear et Alain Lefkovitch, consacré à la techno, en compagnie de Daniel Coe, Christophe Kim, David Blot, Morvan Bourri, Étienne Racine et Jean-Philippe Renou. Une émission réalisée par Monique Veitté et diffusée pour la première fois le 15 septembre 1998 sur France Culture.